Alors aujourd'hui, je reprends un tout petit peu de où on en est dans notre parcours sur la Trinité. Donc la première fois, on a vu plutôt le sentiment de Dieu et qu'est-ce que ça voulait dire. La deuxième fois, on a vu plus dans l'Ancien Testament qu'est-ce qu'on nous disait de Dieu. La fois dernière, on a parlé surtout de Jésus et du Père, quelle était leur relation et comment ces deux personnes étaient... correspondait. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à Jésus et l'Esprit. À chaque fois, l'idée, c'est pas de regarder les personnes en individuel, mais un peu en binôme, parce que chacune, ça permet aussi de commencer à rentrer dans le mouvement aussi de la Trinité. Donc Jésus-Christ, on voit bien que c'est une personne, c'est peut-être pas très compliqué à prouver, et tout le monde voit bien ça. Par contre, l'Esprit Saint, c'est vraiment celui qui fait le moins personne. D'abord parce que son nom Esprit et Saint, c'est pas très personnel. En plus, le mot Esprit, on pourrait dire Dieu est Esprit, donc c'est pas que l'Esprit Saint, c'est finalement valable pour toutes les personnes. Et Saint, c'est clairement valable pour les trois personnes divines. Donc c'est quand même pas si simple que ça. Donc comment est-ce qu'on peut dire que c'est une personne et qui plus est une personne divine? Est-ce que c'est pas juste une force, un souffle? Est-ce qu'on est une vraie personne divine? Donc on va essayer de cheminer ensemble pour découvrir cette personne. Et en fait, c'est à travers Jésus-Christ qu'on va surtout la découvrir, puisque c'est toujours notre point d'entrée, finalement, celui qui nous révèle les choses. Donc comme c'est Jésus qui nous révèle le Père, de la même façon, Jésus nous révèle l'Esprit-Saint, finalement. Sachant que ce qui est curieux, c'est que l'Esprit-Saint révèle aussi Jésus-Christ, donc dans la prière. Alors la première partie, c'est Jésus-Christ, l'Esprit-Saint, les deux mains du Père. Donc c'est une expression de Saint Irénée, qui dit qu'en fait, les missions, donc de notre point de vue, la mission du Saint-Esprit est complémentaire de celle du Fils. Donc là, on voit que la mission du Christ est principalement visible, historique, objective. Celle du Saint-Esprit est tout intérieure, indiscernable, sinon par ses effets, mais qui transforme peu à peu la subjectivité humaine pour la rendre réceptive. Donc on a bien cette double mission entre Jésus et l'Esprit-Saint. Alors on va reprendre un certain nombre de moments pour voir la complémentarité entre les actions de l'Esprit-Saint et de Jésus. Donc tout d'abord au moment de la création. Donc dans Genèse 1-2, on dit « Et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux ». C'est une des traductions possibles. Il y en a d'autres, c'est « Le souffle flottait sur les eaux », on pourrait dire presque. Mais on parle bien de « roua », donc en grec, qui veut dire le souffle, et on parle bien de cette image-là. Donc on a comme l'esprit qui est présent, qui plane sur les eaux, c'est pas très bien quelle est son action, comme si c'était un oiseau qui cherchait à se reposer, à poser quelque part. Et finalement, dans l'Ancien Testament, on voit que c'est un peu l'Esprit-Saint qui, à chaque fois, essaye de se poser dans le peuple de Dieu, à travers les prophètes, à travers... on l'a vu au début, quand on a parlé de la Shekinah, etc. Donc il y a l'Esprit-Saint qui cherche à se poser, à être quelque part. Je vous ai dit cet terme hébreu, pardon, pourquoi j'ai dit grec, rua, en grec ce sera le pneuma, qui traduit par esprit. Donc ce mot signifie en fait, en hébreu les sens sont toujours très imagés, c'est intéressant de voir les significations. Donc ça veut dire un peu avoir de l'espace, être trop large. Donc l'esprit c'est celui qui a besoin de, voilà, il a besoin d'air. il est en Dieu, mais il est aussi ce qui va de Dieu vers les hommes, il est en l'homme, il est aussi ce qui va de l'homme vers les autres ou vers Dieu. Donc on a vraiment cette idée de l'esprit qui peut être à différents endroits et qui a besoin de beaucoup d'espace et qui est aussi dans le cosmos. Et on voit que c'est pour ça qu'on l'assimile d'un côté au souffle, voire à l'haleine. Donc là, on est plus lié au corps qu'on a. Mais il est aussi dans tout l'univers, et là on parle de vent. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi ces images autour de l'Esprit-Saint, autour de tout ce qui est souffle, haleine et tout ce qui est vent. L'Esprit est omniprésent, donc l'Esprit du Seigneur remplit le monde, c'est dans Sagesse 1.6, et il pénètre à travers tous les esprits, donc on peut dire qu'il est partout. Et on voit que l'action du Saint-Esprit est complémentaire, donc dans Genèse 1.2 on dit l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, et puis dans le prologue de Jean, on dit que le Verbe... était au commencement, tout fut par lui et sans lui rien ne fut. Donc on a ces deux, l'Esprit Saint et le Verbe qui sont là présents au moment de la création et qui reflètent la façon dont la création a eu lieu, puisque d'un côté on a la création qui est à la fois un acte à distance par la parole, Dieu dit et cela fait. Donc il n'y a pas de distance qui révèle un peu la transcendance de Dieu. l'autorité de Dieu aussi, une parole performatrice, et sa masculinité, on pourrait dire, qui est rattachée à l'autorité. Et d'un autre côté, il y a aussi une action très concrète par le souffle, donc le souffle qui plane, mais aussi quand il dit souffler sur, Adam pour qu'il ait, il ait la vie. Et puis finalement pétrir, enfin on a plein d'actions qui sont assez concrètes. Et là, ça nous dit plutôt l'immanence de Dieu qui essaye de se faire tout proche, et sa tendresse maternelle, et on peut noter que Rua est féminin. Alors dans le mystère d'incarnation, qui est je suis passée assez rapidement, parce que l'Esprit Saint, il a aussi beaucoup agi dans les prophètes, mais comme là on essaye de voir par rapport à Jésus-Christ, on ne prend pas tellement cette partie-là. Donc dans le mystère de l'incarnation, le premier qui opère, en fait, c'est le Saint-Esprit. C'est le premier moyen que Dieu envoie pour accomplir cette œuvre qui est vraiment son œuvre. Donc ça, c'est ce que nous dit Bérulle. Donc dans l'Annonciation, en fait, le Saint-Esprit se fait présence et puis action, puisque c'est lui qui recouvre la Vierge pour la préparer à recevoir le Fils de Dieu. Donc finalement, l'action du Saint-Esprit, elle anticipe, elle prépare celle de Jésus qui va prendre chair dans le sein de la Vierge. Et on peut donner le parallèle où Jésus s'abaisse dans l'incarnation, mais le Saint-Esprit s'abaisse aussi en venant reposer finalement dans les créatures. Donc il y a une forme de kénose aussi du Saint-Esprit. Donc l'opération du Saint-Esprit devient cette opération qui accomplit l'incarnation du Verbe et la déification de la nature humaine. Donc, on a les deux pans des deux opérations entre comment le Saint-Esprit prépare la venue du Christ. Alors au baptême, autre image très... utile, hein, le baptême, donc c'est bien parce qu'on l'a fêté hier, donc c'est tout frais dans la tête de chacun, qui est quand même une des deux grandes théophanies où on voit Dieu Trinité, en fait. Donc au baptême, Jésus-Christ est couvert par la présence vivifiante de l'Esprit-Saint qui l'engage dans sa mission. Donc dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les yeux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc on a la même idée de venir reposer, quelque part. Donc c'est pas que l'Esprit Saint, Jésus l'avait pas avant, puisque dès son incarnation, il est bien évidemment, l'Esprit Saint est là, et même avant. Mais il y a, au moment du baptême, c'est l'Esprit qui vient sur le Christ, qui est le prophète par excellence, donc un peu comme l'action de l'Esprit Saint sur les prophètes, et qui va introduire sa mission, à la mission du Christ. Donc on a le Père qui envoie l'Esprit Saint, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, donc comme si elle venait du ciel, comme si elle était envoyée par le Père, comme personne divine, et son rôle concerne l'incarnation et l'œuvre salvifique, puisque finalement le baptême, c'est une des étapes dans le salut qui opère, et dans le prolongement de son action sur les prophètes, et en fait, on voit que c'est parce que, à partir du baptême, Jésus va annoncer le royaume, en fait, et c'est avec lui vient le royaume. Et donc, c'est bien l'Esprit Saint qui, dans ce baptême, où l'Esprit Saint vient reposer plus précisément sur lui, ou en tout cas se manifeste sur lui, qu'on a la venue du royaume. Donc, c'est bien l'ensemble des deux, l'Esprit Saint qui vient sur Jésus, qui fait la venue du royaume, en fait. Alors, un autre moment important, c'est quand Jésus sur la croix, quand il dit « tout est accompli », et inclinant la tête, il remit l'Esprit. Alors, dans les quatre évangiles, ce n'est pas le même mot. Il y a certains évangiles qui disent « il expira », il rendit l'Esprit, mais au sens, il arrête, il est physique, puisqu'on dirait pour le dernier souffle d'un homme. Mais dans Saint Jean, il remit l'Esprit comme s'il le donnait finalement au monde. Donc le mot n'est pas du tout, le verbe n'est pas du tout la même chose. C'est un peu comme s'il libérait l'Esprit. Comme si tant que Jésus était présent, l'Esprit comme concentré en lui, le plus beau des enfants des hommes. Donc c'est comme si tant que Jésus est là, finalement l'Esprit Saint, il est d'abord avec Jésus et on ne voit pas tellement son action ailleurs. Donc il n'intervient pas à d'autres endroits, comme s'il était concentré sur Jésus. Après le Christ sur la croix, l'Esprit peut reprendre le large, peut reprendre son action finalement, puisque ça va être le temps de l'Esprit et sera envoyé, on verra un tout petit peu plus loin, par le Fils. Alors en fait, il y a une phrase de Saint Jean qui est assez troublante. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc c'est comme si pendant le temps de Jésus sur terre, il n'y avait pas l'Esprit, ce qui est un peu excessif peut-être, mais enfin qui dit quelque chose. Alors je vous ai mis tout un pavé de saint Thomas d'Aquin qui explique un peu ça. Je trouve que les explications sont de nature assez différente et ça peut aussi faire réfléchir sur les rôles entre Jésus et l'Esprit Saint. C'est pour ça que je vous l'ai mis. Donc saint Thomas d'Aquin nous propose quatre raisons pour pour lequel Jésus n'aurait pas voulu donner l'Esprit Saint aux disciples lorsqu'il était avec eux et qu'il a attendu d'être mort et ressuscité pour leur donner l'Esprit Saint. Donc premièrement, il dit, finalement l'Esprit Saint est un amour spirituel. Tant que Jésus était un homme avec ses disciples, il était plutôt dans l'amour terrestre, et on le voit bien avec Marie-Madeleine, par exemple, qui a pas compris et qui l'amène d'un amour assez terrestre avant qu'il lui dise à la résurrection « lâche-moi », enfin, comme si maintenant il fallait qu'elle l'aime d'une autre façon. Et donc les disciples étant attachés à l'humanité du Christ, un amour terrestre, ils n'auraient pas pu comprendre cet amour spirituel, et finalement ils n'étaient pas capables de l'Esprit Saint en fait. Ça me dit quelque chose sur le fait que quand Jésus est là, en fait, ben, l'Esprit Saint il s'efface. Donc on va rentrer dans la grande discrétion de l'Esprit Saint qui laisse toujours la place à Jésus. Le deuxième raison qu'il nous propose, c'est à cause de la condition du secours divin. En fait, tant que le Christ est avec eux, il est une aide suffisante. Et puis quand le Christ ne va plus être là ou plus visible, ou plus à leur côté au sens très proche du terme, même s'il est là jusqu'à la fin des temps, ben, ils ont besoin d'un autre consolateur. Donc il y a une sorte d'alternance aussi entre Jésus consolateur et on utilisera le mot de paraclet, et le Saint-Esprit ensuite. Quand il dit « il vous donnera un autre paraclet », c'est voilà, il y a une sorte d'enchaînement des deux en secours. Troisièmement, ça c'est plutôt de Saint-Augustin en fait, le Christ en tant qu'homme n'a pas à donner l'Esprit-Saint, c'est en tant que Dieu qui le donne. Donc là on est dans les rôles un peu plus qui nous dit la Trinité. On reviendra tout à l'heure sur l'Esprit qui procède du Père et du Fils dans notre credo. Mais là, il y a l'idée que, justement, pour dire, c'est le Christ, tant qu'il est homme, et donc il est surtout homme, parce que c'est comme ça qu'il est vu par les disciples au temps de sa vie terrestre, il pressente quelque chose de plus, mais finalement, il a fallu la résurrection pour qu'il se rende compte vraiment que c'était Dieu et qu'il relise les choses d'avant, qu'ont fait les disciples d'Emmaüs. Et donc, il fallait que Jésus soit glorifié, donc soit ressuscité, pour qu'il puisse donner l'Esprit Saint en tant que finalement que Verbe divin. Donc il s'était tellement anéanti pour devenir un homme que finalement, voilà, il n'y avait plus que l'homme qui était visible, et donc ce n'était pas du tout le moment d'envoyer l'Esprit Saint, puisque c'est en tant que Dieu qui peut l'envoyer. Voilà. Et le quatrième explication, c'est pour sauvegarder l'unité de l'Église. Et ça, c'est aussi un des traits caractéristiques du Saint-Esprit sur l'unité. C'est-à-dire que tant que Jésus est là, et on l'a vu avec Saint Jean qui ne fait pas de miracle, Saint Jean-Baptiste, et d'autres qui ne... Voilà, tant que le Christ est là, les disciples non plus, les apôtres, ils ne font pas de miracle. Il a fallu que Jésus meure et ressuscite, envoie l'Esprit, et à ce moment-là, les apôtres ont pu faire des miracles, comme Saint Pierre qui ressuscite, je ne sais plus là... J'ai perdu la référence, enfin bon, qui ressuscite quelqu'un. Et donc, c'est comme si avant la résurrection, s'il y avait eu l'Esprit Saint qui agissait à d'autres endroits, bah, du coup, ça aurait mis en doute et ça aurait divisé le peuple. Donc, il fallait, pareil, c'est prééminence du Christ tant qu'il est là. Donc, c'est lui qui a la première place. Donc, je trouve que les explications donnent un peu une idée de rapport entre le Christ et Jésus. Alors évidemment tourné aussi vers nous et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, mais qui nous dit quelque chose de la Trinité. Donc ensuite, le Fils envoie le Saint-Esprit avec le Père et en sa dépendance pour une mission donc strictement divine qui le constitue comme autre paraclet. Donc ça c'est juste avant que le premier soir de la semaine, quand il n'y avait pas encore Thomas dans Saint Jean, où Jésus dit, ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « recevez l'Esprit Saint ». Alors ce qui est intéressant, c'est que juste après, il dit « À qui vous remettrez ses péchés, lui seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Donc on a vraiment, il leur souffle l'Esprit Saint et donc il l'envoie en mission. Donc l'Esprit Saint va maintenant agir dans les disciples. Mais tout de suite, c'est pour faire quoi? C'est pour continuer finalement l'œuvre de salut. Donc on est bien à la continuation du Fils, puisque on parle de maintiendrez les péchés et pardonner les péchés. Donc on est bien dans la logique de l'œuvre de salut du Christ, qui va continuer à travers les apôtres et puis ensuite dans l'Église. Donc on a bien l'Esprit Saint qui prolonge quelque part, qui fait se développer le salut du Christ. Pas un nouveau salut, mais c'est le salut répandu. Et en fait, c'est intéressant parce que donc là, on a tout le mouvement du Saint-Esprit qui a préparé donc l'incarnation, qui ensuite prépare la mission du Christ, le baptême, au baptême. Et inversement, le Christ qui à la fois le remet sur la croix et ensuite l'envoie sur les disciples avant la Pentecôte. Et donc, on a exactement ce même mouvement quand on a dans le mystère eucharistique, en fait, la prière eucharistique est de même nature, puisque avant, au tout début, il y a la consécration du pain et du vin en disant que l'Esprit Saint vienne consacrer le pain et le vin pour qu'il puisse devenir le corps et le sang du Christ, qui effectivement c'est la parole du Christ que le prêtre prononce, qui le rend. Mais il y a cette préparation du Christ de la même façon que dans l'incarnation. Et inversement, quand on communie, bah, on reçoit le Christ, puisque c'est le corps du Christ. Et après, en fait, ce que ça fait, c'est que ça diffuse l'Esprit Saint, et donc ça nous donne l'Esprit Saint, qui est celui qui va finalement continuer son œuvre, puisque le corps, il est assimilé, le corps du Christ, on l'assimile, et donc après, c'est l'Esprit Saint qui, du coup, se diffuse. Donc on a exactement le même mouvement, finalement, dans l'Eucharistie, que le mouvement qu'il y a eu entre l'Esprit Saint et le Christ pendant sa vie terrestre. Alors ensuite, ben, du coup, tout ça, est-ce qu'on peut dire que du coup l'Esprit Saint est quand même une personne et une personne divine? Alors, c'est intéressant parce que dans les premiers siècles de l'Église, il y a eu beaucoup de discussions autour de la personne du Christ. Est-ce qu'il est vraiment homme? Est-ce qu'il est vraiment Dieu? Est-ce qu'il a une seule nature? Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses sur le Christ, sur le Saint-Esprit, peu. Mais en fait, à chaque fois, le Saint-Esprit, c'est gênant parce qu'on ne sait pas très bien quoi en faire. Donc, on fait penser plutôt à une force, une émanation. Il est insaisissable. Contrairement au Père au Fils, où on a quand même la transposition d'un modèle familial, le Saint-Esprit, c'est pas ça, quoi. Voilà. En plus, l'esprit en grec, c'est pneuma. Pneuma, c'est un mot neutre, donc ça fait pas non plus très... Qu'est-ce qu'on en fait, cette chose-là qui est neutre. Voilà. Et puis, on a une grande ambiguïté dans la Bible, puisque le mot pneuma est aussi employé parfois pour l'esprit de l'homme. Donc, en fait, déterminer quand il est question de l'esprit de l'homme ou quand il est vraiment... question de l'Esprit de Dieu n'est pas très évident. Il y a parfois des ambiguïtés. De la même façon que l'emploi E minuscule ou E majuscule n'est pas toujours suffisant. Il y a des E minuscules qui sont en fait l'Esprit Saint, la personne du Saint-Esprit, et puis il y a des... Et donc c'est pas systématique. Donc en fait, on voit bien qu'il y a une ambiguïté et que ça n'a pas été si simple que ça et qu'on ne sait pas trop comment traiter. Finalement, quand on en revient à ce que nous dit Jésus, il présente le Saint-Esprit comme une personne. La phrase la plus symptomatique, c'est celle de Saint Matthieu, de la fin de l'évangile de Saint Matthieu. Allez donc de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc on a une vraie formule baptismale, pas pour le baptême, qui met vraiment sur un pied d'égalité les trois personnes de la Trinité. C'est même intéressant parce qu'on a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc on est bien dans le lien « et » il est entre chaque personne. Et donc on est bien dans cette égalité entre les trois personnes. C'est présenté comme trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. On a une sorte d'égalité entre ces trois termes. Donc ça nous présente bien que finalement l'Esprit-Saint, il est à la fois Dieu et personne. Il est comme le Père et le Fils. Il y a aussi toute une partie, donc là on est dans tout Saint Jean, toujours très utile Saint Jean pour la Trinité, manifestement, parce que déjà la dernière fois, je vous avais fait un cours sur Saint Jean. Et là, il y en a encore beaucoup de Saint Jean. Tous les discours Jean 15, Jean 16, je vous ai mis après toutes les références que j'ai pu trouver sur l'Esprit Saint. Donc, vous avez une palanquée de choses, pas seulement Saint Jean, mais un peu partout. Voilà. Et dans le texte, donc dans Jésus, donc c'est tout le grand discours de Jésus. Voilà ce qu'il dit sur l'Esprit Saint. Donc il dit « Quand viendra le défenseur ?» Donc là, le défenseur, ça fait penser à une personne, comme un nom, « que je vous enverrai d'auprès du Père, lui. » Alors lui, là, c'est un pronom masculin. Donc là, il n'utilise pas du tout comme un pneuma le neutre. C'est vraiment lui, c'est le pronom masculin dans le texte. « L'Esprit de vérité qui procède du Père. » Donc là, on a aussi, on sait d'où il vient, donc comment il est arrivé. Donc il nous dit le rapport entre le Père et le Saint-Esprit. Ça ne nous dit pas grand-chose, hein. On parlera un petit peu après du mot procédé, mais en tout cas ça nous fait une sorte de... Voilà, ça vient d'eux. Il rendra témoignage en ma faveur. Un témoin, c'est une personne. Donc c'est pas un signe, c'est un témoin, donc c'est une vraie personne. Quand il viendra lui, donc toujours ce pronom masculin, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière, il dira... Il aura entendu, il vous le fera connaître. Donc on a une vraie, c'est que des mots d'action de type d'une personne. Dire, écouter, enseigner, etc. Donc on est vraiment comme Jésus le présente comme vraiment quelqu'un qui va venir. Voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans Actes 15, 28, les disciples n'y sont pas du tout trompés puisqu'ils disent l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Et donc on est bien dans cette logique de voilà, c'est vraiment une personne et c'est pas une force. Alors au baptême de Jésus, Jean-Baptiste portait témoignage de l'événement et de la compréhension qu'il tient de la part de celui qui l'a envoyé en précurseur. Donc en fait, il explique pourquoi est-ce qu'il a reconnu le Christ, c'est qu'on lui avait dit « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui, et moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu, et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. » Donc on a bien l'Esprit qui est présenté là par Jean-Baptiste, qui retraduit son envoi en mission. Ça nous fait prendre conscience que l'Esprit est bien une origine divine et qu'il aura une présence stable, demeurée. Donc on a bien l'Esprit Saint qui est envoyé par le Père pour demeurer auprès des hommes, à commencer par Jésus. Et on a le Père qui lui-même atteste que Jésus sera celui qui baptise dans l'Esprit Saint. Donc là on a une intuition. Alors effectivement on n'est pas dans l'Esprit Saint et Dieu, mais dans la Bible c'est jamais aussi basique que ça, mais on a quand même des choses qui nous disent que l'Esprit Saint est à la fois une personne et à la fois divine. Alors ensuite on a la relation mystérieuse où il procède du Père, donc ce mot qui est un peu ambigu. Dans Jean 15 et 16, enfin, ce que je vous ai mis, en fait, on a vraiment l'Esprit qui reçoit du Père et du Fils secondairement. Donc, même s'il est envoyé par le Fils, c'est principalement par le Père, et Jésus n'est que secondairement, c'est-à-dire que c'est lui qui... C'est par le Fils que le Père envoie l'Esprit Saint. Et donc, on a cette relation mystérieuse avec le mot « procéder », alors que pour le Fils, on avait parlé d'engendrer, donc on n'a pas le même mot. Et c'est important, en fait, d'avoir un mot différent, parce que du coup, ça nous montre bien que les relations entre le Père et le Fils, et le Père-Fils Saint-Esprit, ne sont pas de même nature, que c'est des relations différentes, et que donc on a bien une variété de choses, de personnes et de relations dans la Trinité. Alors, dans la tradition de l'Église, il y a un autre mot qui a été utilisé, c'est l'aspiration, qui ne dit pas tellement plus que procéder d'ailleurs, de toute façon. Voilà, aspirer, c'est parce que c'est le Saint-Esprit, donc ils ont utilisé le mot aspiration. Mais vraiment, l'enjeu, c'est plutôt d'avoir que les mots soient différents entre le Père qui engendre le Fils et l'Esprit Saint qui est dans une autre logique. Voilà. Donc, saint Thomas d'Aquin nous dit « Le Père et le Fils dans une œuvre commune spire l'Esprit Saint, la parole, le Verbe de Dieu, le Père, et celui qui spire l'amour. » Donc c'est quand même en référence au Père, par le Père. Donc, l'Esprit Saint est un peu comme le terme qui achève les relations d'amour en même temps que l'ultime rayonnement de Dieu dans le monde, au-delà du Fils. Un peu comme si on avait le Père, l'Esprit Saint, et puis après on a ce débordement de l'Esprit Saint qui est comme le parachèvement des relations d'amour entre le Père et le Fils, et qui en même temps est ce qui se répand sur l'univers et donc ce qui nous attend finalement. L'intimité de son action atteint et marque les hommes de son caractère à son image. L'Esprit Saint est toujours signifié de manière discrète, mais il est assimilé de maintes manières aux deux autres personnes. Il prend le relais du Fils comme un autre paraclet. Le mot paraclet est employé aussi pour Jésus. Il a l'air de... Enfin, dans la formule baptismale, on a vu qu'il était à part entière dans la Trinité. Et finalement, il est à la pointe de l'action du Père et du Fils, puisque c'est en lui et par lui que finalement le Père et le Fils agissent. Alors, une autre façon de pressentir la divinité, la personne divine du Saint-Esprit, c'est aussi de nous dire, finalement, s'il nous communique Dieu, il faut qu'il soit du côté de Dieu. L'Esprit-Saint est l'agent de notre transformation intérieure, et donc il nous apporte Dieu, et donc il doit être quelque part de Dieu. Voilà. Pas un messager. C'est pas du tout pareil, tout ce qui est mentionné sur l'Esprit-Saint, par rapport à un prophète, par exemple. Ça n'a à peu près rien à... C'est pas du tout le même ordre de discours. Donc dans Saint-Jean Chrysostome nous dit « Si l'Esprit-Saint est une créature, donc il fait une spéculation, et ministre du Père et du Fils, l'avènement de l'Esprit-Saint ne serait pas une consolation à l'égard du départ du Christ, de même que ce ne serait pas une consolation suffisante au départ d'un roi si on mettait à sa place l'un de ses ministres. C'est donc parce que l'Esprit-Saint est légal au Fils que le Seigneur les console par la promesse de l'Esprit Saint. Donc ça reprend tous les textes que Jésus, quand il nous annonce l'arrivée de l'Esprit Saint, voilà, il annonce que c'est un vrai consolateur et qui va, il dit voilà, vous n'avez pas à pâtir du fait que je ne serai plus là avec vous. Donc il leur dit, vous ne devez pas être triste parce que je vous envoie l'autre consolateur et il est important que je m'en aille pour que lui puisse arriver. Donc si c'était quelqu'un d'inférieur, bah, il ne pourrait pas le dire comme ça. Voilà. Donc là, il le met vraiment comme au contraire, c'est important que je m'en aille pour que lui puisse être et pour que vous, vous puissiez être près de Dieu. Donc c'est vraiment une égalité de... Donc là, c'est Jésus qui s'efface quelque part en retournant au ciel pour laisser le Saint-Esprit agir et que l'action de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint lui-même, est aussi apporte autant Dieu que Jésus. Il y a aussi tous les textes autour de l'enseignement, donc là, pareil dans Saint-Jean, où il vous enseignera tout ce que j'ai reçu de vous. Donc il enseigne peut-être même mieux que le Christ n'a enseigné, quoi. C'est ce que nous dit Jésus. Il vous enseignera tout. Voilà. Et donc, là, vous ne pouvez pas le porter maintenant, alors que Jésus est là. Donc, normalement, on devrait dire qu'on devrait comprendre mieux avec Jésus. Eh bien non, c'est avec le Saint-Esprit qu'ils vont mieux comprendre. Donc, il y a vraiment cette promesse qu'on est au même niveau que Jésus. Alors ensuite, il y a le texte de la Samaritaine, où on parle de Dieu est esprit. Alors en fait, ce n'est pas Dieu est esprit, il n'y a pas le mot « et ». Donc en grec, ce serait Dieu esprit. Alors cette formule est un peu polémique, elle a reçu diverses interprétations. Soit c'est Dieu se révèle dans l'esprit, soit Dieu se révèle comme esprit. Voilà, bon, c'est pas, on peut dire plein de choses, hein, parce que c'est assez elliptique. L'action de l'Esprit Saint est présentée en relation avec la prière, par contre, et donc... Ce que nous révèle ce passage, c'est que l'Esprit Saint donne à l'homme de pouvoir répondre à l'initiative du Père et de se révéler en son Fils Jésus. Donc, on voit que l'Esprit Saint, donc il est saint comme le Père et le Fils, mais finalement, si on l'a appelé l'Esprit Saint, c'est peut-être parce qu'il a la plénitude de la sainteté, en le sens qu'il y a comme une concentration de la sainteté en l'Esprit Saint et que c'est lui qui nous l'apporte, en fait, quelque part. C'est un peu comme si on avait le Père et le Fils qui se rencontrent dans l'Esprit Saint. Et c'est pour cela que l'Esprit est encore plus saint. Enfin, pas qu'il est plus saint, c'est pas une question de quantité, mais qu'il est éminemment saint. Parce qu'il nous communique Dieu et nous rend capable de Dieu. Donc il y a cette action de sainteté autour de la personne du Saint-Esprit. Mais ça voudrait peut-être creuser plus loin, parce que je n'ai pas été non plus. Alors après, le Père Guiton a une façon de poser des questions que je trouvais intéressante, c'est de dire, bah, s'il n'y avait pas l'Esprit Saint, qui serait notre Dieu? Voilà, si on n'avait qu'une... Donc c'est intéressant parce que finalement, dans l'Esprit Saint, sans l'Esprit Saint, en fait, en Dieu, on n'aurait pas d'ouverture. On aurait le binôme familial, le Père et le Fils, finalement, qui serait très fermé sur lui-même. Donc Saint-Esprit, c'est ni le frère de Jésus, ni le petit-fils, on n'est pas dans ce... on sort du schéma. Et on est avec une nouvelle idée de personne. Au sein de Balthazar, on dit l'esprit au-delà du verbe. Voilà, c'est une autre forme de personne. Et donc, il y a un dépassement de ce face-à-face par ce don à un troisième qui est l'Esprit Saint, qui est comme le nœud d'amour du Père et du Fils, et qui traduit à la fois la clôture de la Trinité et en même temps son ouverture sur l'extérieur. Donc, à la fois l'Esprit Saint et le troisième en Dieu, il est pure réception, parce qu'il reçoit du Père et puis secondairement du Fils. Mais en tout cas, l'extérieur, ad extra, de la Trinité, c'est lui qui est le premier. C'est lui qu'on voit en premier, c'est lui qui prépare nos cœurs, c'est lui qui agit dans l'incarnation. Donc c'est vraiment le premier ad extra. Donc en fait, on est dans l'ouverture. Et on n'est pas dans l'ouverture où il y aurait une troisième personne, comme le Père et le Fils, quelque part, un petit-fils ou autre, qui la dirait, bah, pourquoi pas un quatrième, pourquoi pas un cinquième. Enfin voilà, du coup, il n'y a pas... Non, on passe à autre chose. Et donc quelque part, c'est comme ça. C'est comme si on fermait la boucle. L'Esprit Saint, souvent on parle de comme une boucle, comme, parce qu'il est lien, et du coup c'est comme si on avait le Père, le Fils, et hop, l'Esprit Saint il fait comme une boucle qui ramène le Père et le Fils, et en même temps qui s'ouvre complètement sur l'extérieur. Donc en fait, ce que nous dit le Saint-Esprit, c'est cette ouverture et cette clôture de la Trinité qui nous dit la plénitude de la Trinité, c'est-à-dire qu'à trois, on a une plénitude de l'être. Trinité. Alors on a les deux doxologies qui sont intéressantes, parce qu'on a une doxologie qui est gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et là on est plutôt comme dans la formule baptismale, pour dire l'égalité entre les trois personnes. Donc là, on est comme si on était à l'intérieur de la Trinité et on dit bah, finalement les trois sont complètement en égalité. Et puis d'autre part, on a l'autre doxologie, qui est, enfin, aucune des données fausses, les deux sont bien évidemment justes. Gloire au Père par le Fils dans l'Esprit, où là, on montre plus, c'est moins, l'accent est moins mis sur l'égalité, que sur comment les relations se jouent à l'intérieur de la Trinité et finalement comment elles sont manifestées dans l'économie. Sachant que, comme la Trinité est Dieu et un dans le sens où il est aussi pleinement être, il n'a pas une manière d'être avec nous et puis une manière d'être en lui. Donc quand il est quoi. Donc toutes les manifestations qu'on voit et la façon dont il se manifeste dans la création, ben, en fait, ça nous dit quelque chose de la manière dont ils sont à l'intérieur de la Trinité. Et donc là, on voit bien au Père, donc c'est le principe source, par le Fils, qui est une des actions, et dans l'Esprit, parce qu'il y a ce côté qui demeure, qui se répand. Voilà. Alors sans l'Esprit Saint, on voyait aussi qu'il n'y a pas d'unité en Dieu, puisque l'Esprit Saint, c'est celui qui unit le Père au Fils. Un très beau texte de Bérulle qui nous dit « Vous êtes leur esprit, leur lien, leur amour, l'amour personnel du Père et du Fils. » En fait, le Père et le Fils, c'est pour ça que le terme spirit a été employé et qu'on a aussi notre filioque, pour celle du Père et du Fils, comme on dit dans le credo, chez les catholiques. Le Père et le Fils, en fait, c'est comme si leur union était tellement profonde que ça générait spirait une troisième personne. Qui est cette union entre le Père et le Fils. Donc l'amour du Père et du Fils s'aimant mutuellement produit le Saint-Esprit, qui est une personne distincte, mais une personne qui unit les deux personnes divines, le Père et le Fils vivant en l'unité du Saint-Esprit. Donc l'Esprit-Saint, il a à la fois leur réciprocité, leur communication, leur don mutuel, et en même temps, il est quasiment le cœur de la divinité, l'intimité de la divinité, et en même temps, c'est tellement fort que c'est une personne. Alors on reverra ces notions-là quand on fera la Trinité, puisque on touche là vraiment sur la partie Trinité. Alors sans l'Esprit Saint, pour nous ça changerait un peu la donne, parce qu'on n'aurait pas accès à Dieu. Finalement on ne pourrait pas entrer en communion avec lui. Jésus nous le dit bien. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Donc c'est vraiment par l'Esprit de vérité qui prépare notre cœur qu'on peut accéder à Dieu. L'Esprit Saint nous ouvre les lèvres pour louer Dieu. Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est bien l'Esprit en nous qui peut nous faire appeler Père, le Père de Jésus. Et un autre texte de 1 Corinthiens, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur sinon dans l'Esprit Saint. Donc c'est celui qui nous rend capables de Dieu, quelque part, et qui nous donne accès à Dieu. Alors je vous ai mis aussi un texte de saint Athanase, dans une lettre à Sérapion. Alors, les dons que l'Esprit distribue à chacun sont donnés de la part du Père par le Verbe. En effet, tout ce qui est au Père est au Fils. C'est pourquoi les biens donnés par le Fils dans l'Esprit sont les dons spirituels du Père. Quand l'Esprit est en nous, le Verbe qui nous le donne est en nous, et dans le Verbe se trouve le Père. Et c'est ainsi que s'accomplit la parole, nous viendrons chez lui et nous irons demeurer auprès de lui. Là où est la lumière, là aussi est son éclat. Là où est son éclat, là aussi est son activité et sa grâce resplendissante. C'est cela encore que Paul enseignait dans la seconde lettre aux Corinthiens. Alors, je vais finir là, je fais un point là, temporairement. Donc c'est vraiment l'idée que, en fait, quand Jésus nous dit « Et le Père, si vous gardez mes commandements, le Père et moi viendrons demeurer chez vous », en fait, c'est l'Esprit Saint qui, en demeurant en nous, nous donne le Verbe et qui lui-même, dans le Verbe, se trouve le Père. Donc finalement, c'est par l'Esprit Saint qui vient demeurer en nous que le Père et le Fils viennent demeurer en nous. Je trouve que c'est assez éclairant. Et de la même façon qu'on dit à la lumière, et ben en fait, là où est son éclat, là où atterrit, là où est son rayonnement, c'est un peu comme si l'Esprit Saint, c'était celui qui rayonnait, qui du coup nous fait la lumière qui vient en nous. Alors, il poursuit avec Paul qui, dans la seconde lettre aux Corinthiens, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. En effet, la grâce et le don accordés dans la Trinité sont donnés de la part du Père par le Fils dans l'Esprit Saint. De même que la grâce accordée vient du Père par le Fils, ainsi la communion au don ne peut se faire en nous sinon dans l'Esprit Saint. C'est en participant à lui que nous avons l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion de l'Esprit Saint. Donc c'est vraiment comme si l'Esprit Saint nous acclimatait à Dieu. Et l'expression par le Père, enfin c'est une des expressions régulièrement, Jérôme, tu vas m'aider, on est dans le Père, par le Fils, avec la communion du Saint-Esprit. Non, c'est, tu sais, et dans la communion qui se termine par la communion du Saint-Esprit, et la communion de l'Esprit soit avec vous tous. Voilà, bon, enfin, c'est cette deux. Donc vous allez retrouver tout seul, sans moi, parce que je me suis embrouillée.
Et donc il y a cette idée de. Du Saint-Esprit.
Voilà. Et donc la communion d'Esprit Saint, finalement, c'est pas la communion juste avec l'Esprit Saint, c'est la communion à Dieu, mais finalement, elle arrive par l'Esprit Saint. Donc c'est lui qui nous fait entrer en communion avec Dieu, et donc cette expression nous dit bien ça, que c'est l'Esprit Saint parce qu'il nous rend capable de Dieu au sens où il nous prépare le terrain, un peu comme il a préparé la Vierge pour qu'elle puisse enfanter Jésus, quoi, pour que Jésus puisse venir en elle. Donc il y a une sorte de préparation qui fait que ça devient un terrain propice pour Dieu, et en même temps, l'Esprit Saint, il est donné aussi par Jésus. Et donc on parle souvent de l'Esprit Saint comme fontaine de vie. Donc ça, c'est aussi dans l'épisode de la Samaritaine, on parle de l'Esprit Saint et on fait le rapprochement entre l'eau vive et l'Esprit Saint. Et c'est très consonant avec finalement ce qu'on vit dans l'Église et les sacrements, puisque l'Esprit Saint, c'est celui qui anime l'Église, c'est lui qui la rend sainte, qui la fait corps du Christ. Et finalement, dans les sacrements, c'est l'Esprit qui est l'artisan des sacrements, qui actualise les mystères du Christ et qui nous permet de bénéficier quelque part des sacrements et de la réception de Dieu en nous. Donc enfin, sans l'Esprit Saint, nous ne pourrions être divinisés. Alors là, je vous ai mis trois textes. Donc Saint Grégoire de Nyssa dans le Christ Pascal. « La gloire que tu m'as donnée, je la leur donne. » Il appelle gloire l'Esprit Saint qu'il a insufflé à ses disciples. Il n'est pas possible que ceux qui étaient séparés les uns des autres soient unis autrement qu'en étant réunis par l'unité de l'Esprit. Car si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Or l'Esprit, c'est la gloire, comme il dit par ailleurs à son Père, « Glorifie-moi de la gloire que j'avais au commencement auprès de toi avant que le monde soit. » Donc là, Saint Grégoire, il nous fait un parallèle complet entre l'Esprit Saint et finalement la gloire. Donc c'est bien par l'Esprit Saint qu'on peut accéder à la gloire. Et quand on parle de la grâce, d'ailleurs, l'Esprit Saint, je ne vous en ai pas du tout parlé là, mais on parle souvent de la grâce sanctifiante, la grâce créée, réelle, bon, il y a plein de trucs sur la grâce, je ne suis pas rentrée là-dedans. Mais voilà, la grâce, c'est quelque part, c'est la gloire de Dieu qui vient aussi en nous. Donc c'est par l'Esprit Saint qu'on est divinisé et qu'on peut entrer dans la gloire de Dieu. Et Jésus le dit, la gloire que tu m'as donnée, je la leur donne. Donc on est appelé à avoir cette gloire de Dieu, à rentrer dans cette gloire de Dieu, nous qui sommes des créatures, et c'est l'Esprit Saint qui permet ça. Dans Saint Basile, la prière de l'Église est à la fois gratitude pour les dons que le Père dispense par le Fils dans l'Esprit, louange pour ce Père avec qui de toute éternité sont le Fils et l'Esprit, et de même qu'elle reconnaît le Fils d'autant plus un avec le Père que la surabondance de sa grâce en manifeste la bonté plus que bonne, de même elle admire que l'Esprit soit d'autant moins séparable du Père et du Fils qu'il éclaire en nous, comme hôte plus intime que notre intime, l'excès de charité qui les a poussés à nous sortir de la nuit pour nous conduire en leur intimité. Je vais juste m'arrêter sur la dernière partie de la phrase. En fait, on admire dans notre prière liturgique, on admire que l'Esprit soit inséparable du Père et du Fils, et d'autant moins séparable, qu'il éclaire en nous, alors c'est l'idée de hôte plus intime que notre intime, c'est un des attributs qu'on prête au Saint-Esprit, de dire qu'il est l'hôte le plus intime de notre intime, et il est aussi l'hôte le plus intime de l'intimité de la Trinité, donc c'est toujours lui qui est le cœur, l'excès de charité, bon, ça c'est en plus, qui les a poussés à nous sortir de la nuit pour nous conduire en leur intimité. Donc là c'est l'histoire du salut, c'est l'Esprit-Saint qui en devenant plus intime que notre intime nous permet de s'approprier ou d'intégrer le salut que le Christ a réalisé pour nous et nous sortir de la nuit pour nous conduire en leur intimité. J'aime bien le hôte plus intime que notre intime et cette idée de nous sortir de la nuit pour nous conduire en leur intimité. Donc là, c'est vraiment le dessein de Dieu, hein, qui veut nous pousser à nous sortir du péché pour nous conduire en leur intimité. Et donc le salut, il est bien par Jésus-Christ, mais finalement, pour qu'il soit opérant en nous, c'est l'Esprit Saint qui le rend opérant en nous. Parce qu'il nous ôte plus intime que notre intime, et parce qu'il nous, il nous ramène aussi à l'intimité de Dieu. Qui poursuit finalement la salut en nous, qui l'intègre, qui l'imprègne. Ça va ou... Alors, ça m'a dit, j'aime beaucoup moi les Grecs, donc je suis les Cappadociens, j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'ils sont très lyriques, mais c'est très beau. La prière de l'Église est à la fois gratitude pour les dons que le Père dispense par le Fils dans l'Esprit, puis tout y est à chaque fois, il y a les trois personnes qui sont là, c'est comme une danse. Voilà, et c'est louange pour le Père, et de même, c'est reconnaître qu'on a une surabondance de la grâce qui nous sauve et qui nous permet d'accéder à l'intimité de la Trinité.
Alors moi, je suis perdue avec le baptême, parce que le baptême, ça donne le Saint-Esprit, ce qui veut dire que ceux qui sont baptisés n'ont pas.
Alors, en fait, c'est là où on rejoint ce que je disais au début sur l'Esprit Saint qui aime le large, c'est qu'à la fois, au baptême, on a, un peu comme Jésus, il a concentré l'Esprit Saint, c'est pas pour ça que l'Esprit Saint n'était plus que là, il était quand même ailleurs. Mais, donc je pense que l'Esprit Saint, il est dans partout, mais au baptême, il y a comme une dose supplémentaire, confirmation encore plus. Mais par contre, c'est vrai que si on ne le laisse pas être intime, plus intime que notre intime, et qu'on l'encombre avec plein de trucs, il ne pourra pas agir. Il n'agira pas sans nous. Mais par contre, on a cette grâce. Effectivement, ce n'est pas qu'on ne l'a pas du tout, mais que par le baptême, par la confirmation, par les sacrements, finalement, à chaque Eucharistie, on a ce débordement de Saint-Esprit qui... comme s'il était démultiplié et ravivé, voilà. Mais finalement, c'est de notre point de vue qu'il a besoin d'être ravivé. Parce que le Saint-Esprit, lui, il n'a pas besoin d'être pleinement là, quoi. C'est nous qui mettons un peu sous cloche. Et, comme le feu, là, qu'on éteint. La braise, elle est là, mais si on ne lui laisse pas rayonner, elle n'agit pas. Elle n'agit pas suffisamment. C'est pour ça qu'il est... Il est aussi l'hôte le plus intime, même des gens qui ne sont pas baptisés. Mais voilà, c'est par les sacrements que ça nous donne un accès au salut. Sinon, on ne sait pas trop quoi. Qu'est-ce qu'on en fait quoi.
Quand on est baptisé et qu'on pratique, on peut lui parler.
Bien sûr.
Mais si on n'est pas baptisé et qu'on. Il agit peut-être
à même pas.
Ouais. Oui.
Mais il nous prépare. Parce que pour qu'on puisse se convertir, toi qui as été baptisé adulte, il a bien fallu que l'Esprit Saint travaille avant pour qu'à un moment donné, tu fasses le pas de te dire tiens, je vais baptiser. Donc, il était aussi à la fois là, enfin, il était déjà là, et en même temps, tu l'as eu
en beaucoup plus. On n'est pas conscient qu'il est là.
Voilà. Alors, pour conclure, je vous ai mis un texte de René Laurentin, La Trinité. Je trouve très beau. C'est un énorme bouquin, mais c'est très bien expliqué sur la Trinité. Vous en aurez droit à un certain nombre de passages quand on est dans deux cours. Donc, ça concentre bien ce que c'est que le Saint-Esprit. L'image du lien convient au Saint-Esprit en ce sens que le lien est distinct de la gerbe qui l'unit. Donc, l'Esprit est bien distinct comme personne, sans être un autre individu, car le Père et le Fils sont impliqués dans ce lien. Donc on est à la fois sur une personne distincte et en même temps on n'est pas comme nous qui sommes des individus finalement sans lien entre guillemets qui peuvent vivre séparément. Là on est bien dans le cadre où il est le lien et donc ça n'existe pas sans, c'est tout le temps. Lien de la Trinité, l'Esprit Saint est aussi le lien de l'Église et des communautés en Jésus-Christ. Donc ce qu'il a produit dans la Trinité, il le reproduit avec nous. Donc on est dans l'homothésie des actions. Il fait leur unité organique malgré la diversité des hommes. On a toujours ce lien, cette unité. L'Esprit-Saint, c'est celui qui unit. Dans l'Église comme dans la Trinité, le lien est intérieur. C'est pourquoi il est l'amour même. L'Esprit-Saint habite bien l'Église et très intimement chaque chrétien. Il nous transforme et cette union mystique est indescriptible. Elle nous recrée et nous intègre à la vie divine. C'est moins lui qui est en nous que nous en lui. Et c'est ça que fait le baptême. Et c'est en nous qu'est créé l'effet de grâce qui nous unit à Dieu et nous fait réellement participer à sa vie divine. Donc en fait, moi ce que je trouve que ça donne comme idée de l'Esprit Saint, c'est que ce n'est pas tant quelque chose que je reçois, ce n'est pas juste un cadeau, même si c'est un don, la grâce, mais c'est finalement, elle nous tire vers Dieu. Donc c'est plutôt, elle nous fait monter au ciel, elle nous divinise. Donc il faut plutôt voir ça dans ce sens-là, un peu comme dans l'Eucharistie. Finalement, c'est pas le pain qui s'absorbe en nous, c'est pas Jésus qui devient nous, c'est l'inverse. Contrairement au pain d'habitude, dans l'Eucharistie, c'est nous qui devenons le corps du Christ, c'est nous qui devenons le pain qu'on a reçu. Et ben un peu de la même façon, l'Esprit Saint, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une, on n'est pas auto-centré sur nous, mais l'inverse, c'est que ça nous décentre et ça nous renvoie et ça nous incorpore à la divinité. Voilà, et cette idée de lien, je trouve qu'elle est très belle parce que ça le dit à la fois, parce que c'est l'amour, ce lien, et ben il est tellement fort qu'il dit quelque chose. Nous, quand on est des relations, on est plein de choses. On est fils d'un tel, sœur, mère, enfin voilà, on a plein de... Le père, le fils, ils sont que père et fils. Ben, il n'y a pas d'autre chose qui les définit. Ils sont définis comme ça, c'est l'essence, c'est la totalité de leur être et de leur vie. Et donc, ce lien qui est l'Esprit Saint, eh ben, il est aussi, lui, une personne tellement c'est solidifié presque, enfin, je ne sais pas comment on peut dire. Alors, dans l'Esprit Saint se déploie l'originalité de la Trinité, finalement, la dépossession et la capacité de don, car il est le don mutuel du Père et du Fils, la perfection de leur don mutuel. Donc, la personne de l'Esprit Saint manifeste Dieu, amour, et l'Esprit est donc l'achèvement de la Trinité, dans le sens de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un quatrième, parce qu'on est sur un autre modèle et qu'il y a comme une... Voilà, on peut fermer, il y a une sorte de symphonie de plénitude de cette Trinité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui à la fois des possessions, tout est dans ce don donné du Père, qui est pur don ou pure réception, puisque le Saint-Esprit, lui, il est pure réception, le Père, il est pur don, et le Fils, il est à la fois... réception et don. On peut dire que l'Esprit Saint est le terme de l'amour comme le Père en est le principe. Donc c'est un peu comme si on parle souvent du Père qui est le principe dans la Trinité. Ben, l'Esprit Saint, c'est l'inverse, c'est le terme. Et en fait, on accède, parce que le Saint-Esprit, ben, il est très discret. En fait, nous pouvons comprendre par ce qu'on vive les saints, et puis parce que le peu que nous en vivons nous déjà, si on essaye. Et en fait, autant nous sommes invités à imiter Jésus-Christ, autant on n'est pas invité à imiter l'Esprit-Saint. C'est pas une personne à imiter, puisqu'on n'est pas à l'image, à la ressemblance de l'Esprit-Saint. Par contre, on a à se mettre sous son influence et sous son invocation pour qu'il puisse vivre en nous, finalement. Comme Marie, qui vivait l'Esprit-Saint, il l'avait intériorisé en toute discrétion, puisque finalement, ça s'est passé, il l'a pas violenté. Enfin voilà, elle a pris toute Marie, comme elle était. Et en même temps, elle a été complètement imprégnée de l'Esprit Saint, qui fait qu'Élisabeth peut lui dire pleine de grâce et qu'elle a pu accueillir Jésus. Et finalement, c'est ce que nous, on doit faire et c'est ce que l'Esprit Saint veut faire en nous, c'est nous faire communier à Jésus et nous faire connaître le Père. Voilà, et il s'efface.